Un soir que j'étais allongé sur le pont de mon vapeur, j'entendis des voix se rapprocher. C'était le neveu et l'oncle qui déambulaient sur la rive. Je reposais ma tête sur mon bras et je m'étais presque perdu dans une somnolence quand quelqu'un dit presque à mon oreille « Je suis aussi inoffensif qu'un petit enfant, mais je n'aime pas qu'on me fasse la loi. Est-ce moi le directeur, oui ou non ? On m'a ordonné de l'envoyer là. C'est incroyable. » Je me rendis compte qu'il se tenait sur la rive contre l'avant du vapeur, juste au-dessous de ma tête. Je ne bougeais pas. Il ne me vint pas à l'idée de bouger. J'avais sommeil. « Oui, c'est déplaisant, » grogna l'oncle. « Il a demandé à l'administration à être envoyé là-bas, » dit l'autre, « avec l'idée de montrer ses capacités, et j'ai reçu des instructions en conséquence. Tu vois l'influence que ce type peut avoir. N'est-ce pas terrible ?» Ils tombèrent d'accord que c'était terrible, puis firent d'étranges remarques. Faire la pluie et le beau temps, un seul homme, le conseil, par le bout du nez. Des fragments absurdes de phrases qui triomphèrent de ma somnolence, de sorte que j'avais à peu près tous mes esprits quand l'oncle dit « Le climat résoudra peut-être le problème pour toi. Est-il seul là-bas ?»« Oui, » répondit le directeur. Il a renvoyé son assistant avec un billet pour moi en ces termes. « Débarrassez le pays de ce pauvre diable et ne vous donnez pas la peine d'en envoyer d'autres du même acabit. J'aime mieux être seul que d'avoir avec moi le genre d'homme dont vous pouvez disposer. Il y a plus d'un an. Peux-tu imaginer pareille impudence ?»« Et depuis ?» demanda l'autre d'une voix rauque. « De l'ivoire, » aboya le neveu. « Des tas, première qualité. Des tas, exaspérant que ça vienne de lui. »« Et avec ça ?» questionna la grosse voix. « Facture !» telle fut la réplique tirée comme une balle. Puis le silence. Ils avaient parlé de Kurtz. Maintenant, j'étais bien réveillé, mais allongé tout à mon aise, je restais tranquille, n'ayant pas de raison de changer de position. « Comment cet ivoire est-il arrivé de si loin ?» grogna le vieux, qui semblait très irrité. L'autre expliqua qu'il était venu par une flottille de pirogues sous la charge d'un métis anglais, un employé de Kurtz. Qu'apparemment Kurtz avait l'intention de revenir en personne, le poste étant désormais dépourvu de marchandises et de provisions, mais qu'après avoir fait 300 000, il avait brusquement décidé de s'en retourner, ce qu'il avait entrepris seul dans une petite pirogue avec 4 pagayeurs, laissant le métis poursuivre la descente avec l'ivoire. Mes deux gaillards semblaient abasourdis que quiconque ait rien tenté de pareil. Ils n'arrivaient pas à imaginer une raison valable. Quant à moi, il me semblait voir Kurtz pour la première fois. C'était une vision distincte. La pirogue, 4 pagayeurs sauvages et le blanc solitaire tournant brusquement le dos au quartier général, à la relève, à l'idée du pays natal peut-être, se tournant vers les profondeurs de la brousse, vers son poste vide et désert. Je ne savais pas la raison. Peut-être était-ce tout simplement un type sérieux qui était attaché à son travail, sans plus. Son nom, comprenez bien, n'avait pas été prononcé une seule fois. Il était cet homme. Le métis qui, pour autant que je puisse juger, avait dirigé une descente difficile avec beaucoup de prudence et de cran, était invariablement désigné comme « cette canaille ». La canaille avait rapporté que l'homme avait été très malade, était imparfaitement guéri. Les deux types au-dessous de moi firent alors quelques pas, allant et venant non loin. J'entendis « poste militaire, docteur, 200 000 ». Tout à fait seul maintenant. Retards inévitables. 9 mois. Pas de nouvelles. D'étranges rumeurs. » Ils se rapprochèrent au moment précis où le directeur disait « Personne, pour autant que je sache, sauf une espèce de trafiquant nomade, un infect bonhomme qui extorque de l'ivoire aux indigènes. » De qui parlait-il maintenant ? Je saisis par bribes qu'il s'agissait d'un homme censé se trouver dans la contrée de Kurtz et qui n'avait pas l'approbation du directeur. Nous ne serons pas débarrassés de la concurrence malhonnête tant qu'un de ces types n'aura pas été pendu pour l'exemple. « Certainement, » grogna l'autre. « Fais-le pendre. Pourquoi pas ? Tout est possible dans ce pays-ci. C'est ce que je dis. Personne ici, comprends bien, ici, ne peut compromettre ta position. Et pourquoi ? Tu supportes le climat, tu leur survis à tous. Le danger est en Europe. Mais là, avant de partir, j'ai pris soin d'eux. » Ils s'éloignèrent en murmurant, puis leurs voix s'élevèrent de nouveau. « L'extraordinaire série de retards n'est pas de ma faute. J'ai fait de mon mieux. » Le gros soupira, désolant. « Et l'absurdité empoisonnante de ses propos, » continua l'autre. « Il m'a bien fait souffrir quand il était ici. » Chaque poste devrait être un phare sur la voie du progrès, un centre de commerce, bien sûr, mais aussi d'humanisation, d'amélioration, d'instruction. Tu te rends compte, c'est Anne, et ça veut être directeur. Non, c'est... Là, il s'étrangla d'excessive indignation, et je relevai un rien la tête. Je fus surpris de voir comme ils étaient prêts, juste au-dessous de moi. J'aurais pu cracher sur leur chapeau. Ils regardaient le sol, perdus dans leurs pensées. Le directeur cinglait sa jambe avec une mince baguette. Son sagace parent releva la tête. « Tu te portes bien depuis ton dernier retour ?» demanda-t-il. L'autre sursauta. « Qui ? Moi ? Oh, comme un charme, comme un charme. Mais les autres, bonté divine, tous malades. Ils meurent si vite, en plus, que je n'ai pas le temps de les renvoyer d'ici. C'est incroyable. « Hum, tout à fait, » grogna l'oncle. « Ah, mon garçon, compte sur tout ça. Je dis bien, compte sur tout ça. » Je le vis étendre un bras comme une courte nageoire en un geste qui embrassait la forêt, la crique, la vase, le fleuve, semblant d'un geste déshonorant faire signe à la face ensoleillée de la terre pour solliciter traîtreusement la mort tapie, le mal caché, les profondes ténèbres au cœur des choses. C'était si stupéfiant que je me levai d'un bond et tournai mon regard vers la lisière de la forêt, comme si j'avais attendu une manière de réponse à cette noire démonstration de confiance. Vous savez quelles sottes idées nous viennent parfois. L'altière sérénité faisait face à ces deux figures avec sa patience inquiétante, attendant que s'éloigne une invasion fantastique. Ensemble, ils jurèrent tout haut, de simple peur, je pense, puis faisant mine de ne rien savoir de mon existence, ils retournèrent vers le poste. Le soleil était bas, et penchés en avant, côte à côte, ils semblaient tirer péniblement sur cette pente leurs deux ombres ridicules, d'inégale longueur, qui traînaient lentement derrière eux sur les hautes herbes, sans courber un seul brin. Au bout de quelques jours, l'expédition pour l'Eldorado passa dans la patiente brousse, qui se referma sur elle comme fait la mer sur un plongeur. Longtemps après, vint la nouvelle que tous les ânes étaient morts. Je ne sais rien du sort des animaux moins précieux. Eux, sans nul doute, comme le reste d'entre nous, trouvèrent ce qu'ils méritaient. Je ne me suis pas renseigné. J'étais alors plutôt ému par la perspective de rencontrer bientôt Kurtz. Quand je dis bientôt, je l'entends comparativement. Ce fut précisément à 2 mois du jour de notre départ de la crique que nous arrivâmes à la berge située sous le poste de Kurtz. Remonter ce fleuve, c'était comme voyager en arrière vers les premiers commencements du monde, quand la végétation couvrait follement la terre et que les grands arbres étaient rois. Un cours d'eau vide, un grand silence, une forêt impénétrable. L'air était chaud, épais, lourd, languide. Il n'y avait pas de joie dans l'éclat du soleil. La voie fluviale poursuivait longuement son cours, déserte, vers l'obscurité des lointains que couvrait l'ombre. Sur les bancs de sable argentés, les hippopotames et les crocodiles prenaient le soleil côte à côte. Les larges eaux couraient à travers un désordre d'îles boisées. On perdait son chemin sur ce fleuve, comme on ferait dans un désert, et on butait tout le jour sur des hauts fonds, essayant de trouver le chenal, tant qu'on se croyait ensorcelé et coupé à jamais de tout ce qu'on avait connu jadis, quelque part, bien loin, dans une autre existence peut-être. Il y avait des moments où le passé vous revenait, comme il fait parfois quand on n'a pas un moment à perdre sur soi-même. Mais c'était avec un aspect de rêve agité et bruyant, remémoré avec étonnement parmi les réalités accablantes de ce monde étrange de plantes, d'eau, de silence. Et cette immobilité de la vie ne ressemblait nullement à une paix. C'était l'immobilité d'une force implacable, appesantie sur une intention inscrutable. Cela vous regardait d'un air vengeur. Je m'y accoutumai par la suite. Je cessais de le voir. Je n'avais plus le temps. Il fallait que je devine continuellement le chenal, que je distingue, affaire principalement d'inspiration, les signes des bancs cachés. Je guettais les pierres des fonds. J'apprenais à serrer les dents avant que le cœur ne me faille, quand je frôlais par chance quelques vieilles saletés d'obstacles qui auraient déchiré les œuvres vives du vapeur de fer blanc et noyé tous les pèlerins. Il fallait que je guette les indices de bois mort à couper la nuit pour la navigation du lendemain. Quand il faut s'occuper de ce genre de choses, des simples incidents de surface, la réalité, je dis bien la réalité, s'évanouit. Le cœur de la vérité se dissimule, heureusement, heureusement. Mais je le sentais tout de même. Je sentais souvent sa mystérieuse immobilité qui observait mes singeries, comme il vous regarde, mes amis, marcher sur vos cordes raides respectives pour, combien ça fait, à une demi-couronne la culbute. « Tâchez d'être poli, Marlowe !» grogna une voix, et je vis qu'il y avait au moins un auditeur éveillé en plus de moi-même. « Je vous demande pardon, j'oubliais la peine de cœur qui fait le reste du prix. Et en vérité, qu'importe le prix, si le tour est réussi, vous faites fort bien vos tours. Et quant à moi, je ne m'en suis pas tiré si mal, puisque j'ai réussi à ce que ce vapeur ne coule pas à mon premier voyage. J'en suis encore tout étonné. Imaginez un homme, un bandeau sur les yeux, ayant à conduire un fourgon sur une mauvaise route. J'ai sué, j'ai frémi de cette affaire considérablement, je peux vous le dire. En somme, pour un marin, accrocher le fond d'un truc qui est censé continuer à flotter sous son contrôle, c'est le péché impardonnable. Il se peut que personne ne le sache, mais vous n'oublierez jamais le choc. Pas vrai? Un coup en plein cœur. Vous vous le rappelez, vous en rêvez, vous vous réveillez la nuit et vous y pensez, des années après, et vous en avez des frissons. Je ne veux pas faire croire que ce vapeur était tout le temps à flot. Plus d'une fois, il a dû passer pour un temps à gué, après 20 cannibales barbotant autour et poussant. Nous avions enrôlé quelques-uns de ces gaillards en route comme équipage. Très bien, les cannibales, à leur place. C'étaient des hommes avec qui on pouvait travailler, et je leur suis reconnaissant. Et après tout, ils ne mangeaient pas l'un et l'autre sous mon nez. Ils avaient apporté une provision de viande d'hippopotame, qui pourrit et qui fit puer dans mes narines le mystère de la brousse. Pouah ! Je la renifle encore. J'avais le directeur à bord et 3 ou 4 pèlerins, avec leurs bâtons, rien n'y manquait. Parfois, nous tombions sur un poste proche de la berge, accroché au basque de l'inconnu, et les blancs, accourant d'une masure croulante, avec de grands gestes de joie, de surprise, de bienvenue, semblaient tout étranges, ayant l'air d'être tenus là captifs par un enchantement. Le mot ivoire retentissait dans l'air un moment, et nous repartions dans le silence, sur des étendues vides, tournant autour de courbes endormies, entre les hautes murailles de notre sinueux parcours, réverbérant en roulement sourd le lourd battement de la roue arrière. Des arbres, des millions d'arbres, massifs, immenses, jaillissant très haut. Et à leurs pieds, serrant la rive à contre-courant, se traînait le petit vapeur encrassé, comme un bousier paresseux rampant sur le sol d'un noble portique. On se sentait tout petit, tout perdu, et pourtant ce n'était pas absolument déprimant, cette sensation. Après tout, si on était petit, le bousier crasseux avançait, ce qui était exactement ce qu'on voulait. Vers où, dans l'imagination des pèlerins, je ne sais. Quelque endroit où ils espéraient quelque profit, je gage. Pour moi, ils se traînaient vers Kurtz, exclusivement. Mais quand les conduites de vapeur se mirent à fuir, nous nous traînâmes fort lentement. Une longueur de fleuve s'ouvrait devant nous et se refermait derrière, comme si la forêt avait tranquillement traversé l'eau pour nous barrer le passage au retour. Nous pénétrions de plus en plus profondément au cœur des ténèbres. Quelle quiétude il y régnait. La nuit, parfois, le roulement des tam-tams derrière le rideau d'arbres remontait le fleuve et restait vaguement soutenu, planant en l'air bien au-dessus de notre tête jusqu'à l'aube. S'il signifiait guerre, paix ou prière, nous n'aurions su dire. Les aurores étaient annoncées par la tombée d'une froide immobilité. Les coupeurs de bois dormaient, leur feu brûlait bas. Le craquement d'un rameau faisait sursauter. Nous étions des errants sur la terre préhistorique, sur une terre qui avait l'aspect d'une planète inconnue. Nous aurions pu nous prendre pour les premiers hommes, prenant possession d'un héritage maudit à maîtriser, à force de profondes angoisses et de labeurs immodérés. Mais soudain, comme nous suivions péniblement une courbe, survenait une vision de murs de roseaux, de toits d'herbe pointues, une explosion de hurlements, un tourbillon de membres noirs, une masse de mains battantes, de pieds martelants, de corps ondulants, d'yeux qui roulaient sous les retombées du feuillage lourd et immobile. Le vapeur peinait lentement à longer le bord d'une noire et incompréhensible frénésie. L'homme préhistorique nous maudissait, nous implorait, nous accueillait, qui pourrait le dire? Nous étions coupés de la compréhension de notre entourage. Nous le dépassions en glissant comme des fantômes, étonnés et secrètement horrifiés, comme des hommes sains d'esprit feraient devant le déchaînement enthousiaste d'une maison de fous. Nous ne pouvions pas comprendre parce que nous étions trop loin et que nous ne nous rappelions plus parce que nous voyagions dans la nuit des premiers âges, de ces âges disparus sans laisser à peine un signe et nul souvenir. La terre semblait n'être plus terrestre. Nous avons coutume de regarder la forme enchaînée d'un monstre vaincu, mais là, Là, on regardait la créature monstrueuse et libre. Ce n'était pas de ce monde, et les hommes étaient... Non, ils n'étaient pas inhumains. Voilà, voyez-vous, c'était le pire de tout. Ce soupçon qu'ils n'étaient pas inhumains, cela vous pénétrait lentement. Ils braillaient, sautaient, pirouettaient, faisaient d'horribles grimaces. Mais ce qui faisait frissonner, c'était bien la pensée de leur humanité, pareille à la nôtre, la pensée de notre parenté lointaine avec ce tumulte sauvage et passionné. Hideux. Oui, c'était assez hideux. Mais si on se trouvait assez homme, on reconnaissait en soi tout juste la trace la plus légère d'un écho à la terrible franchise de ce bruit, un obscur soupçon qui avait un sens qu'on pouvait, si éloigné qu'on fût de la nuit des premiers âges, comprendre. Et pourquoi pas? L'esprit de l'homme est capable de tout, parce que tout y est, aussi bien tout le passé que tout l'avenir. Qu'y avait-il là après tout? Joie, crainte, tristesse, dévouement, courage, colère, qui peut dire? Mais vérité, oui, vérité dépouillée de sa draperie, de temps. Que le sceau soit bouche bée et frissonne, l'homme sait et peut regarder sans siller. Mais il faut qu'il soit homme, au moins autant que cela sur la rive. Il faut qu'il rencontre cette vérité-là avec la sienne, avec sa force intérieure. Les principes ne collent pas. Les acquis, vêtements, jolis oripeaux, oripeaux qui s'envoleraient à la première bonne secousse. Non, il faut une croyance réfléchie. Un appel qui me vive dans ce chahut démoniaque. Oui, fort bien, j'entends, j'admets, mais j'ai une voix, moi aussi, et pour le bien comme le mal, elle est une parole qui ne peut être réduite au silence. Naturellement, le sot, cette affaire de peur panique aussi bien que de beaux sentiments, est toujours sauf. Qui grogne par là? Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas gagné la rive pour être du cri et de la danse? Eh bien non, je ne l'ai pas fait. Beaux sentiments, dites-vous. Au diable, les beaux sentiments. Je n'avais pas le temps. Il fallait que je tripote ces ruses et bandes de couverture de laine pour aider à bander ces conduites qui fuyaient, je vous dis. Il fallait que je surveille la barre et que je déjoue les obstacles et que je fasse marcher mon pot de fer blanc vaille que vaille. Il y avait dans tout ça assez de vérité de surface pour sauver un homme plus sage. Et entre-temps, il fallait que je m'occupe du sauvage qui était chauffeur. C'était un spécimen amélioré. Il savait mettre à feu une chaudière verticale. Il était là au-dessous de moi, et ma parole, le regarder était aussi édifiant que de voir un chien en une caricature de pantalon et chapeau à plumes qui marche sur ses pattes de derrière. Quelques mois d'instruction avaient réglé le compte de ce type de réelle qualité. Il louchait vers la jauge de vapeur et la jauge d'eau avec un évident effort d'intrépidité, et avec ça, il avait les dents limées et trois cicatrices ornementales sur chaque joue. Il aurait dû battre des mains et des pieds sur la rive, au lieu de quoi il besognait dur, dans l'esclavage d'une étrange sorcellerie, riche en savoir et progrès. Il était utile parce qu'il avait été instruit, et ce qu'il savait, c'était ceci, que si l'eau dans ce truc transparent disparaissait, l'esprit mauvais dans la chaudière se mettrait en colère tant il aurait soif, et qu'il prendrait une terrible revanche. Il suait donc et chauffait et surveillait cette jauge dans la crainte, avec un gris-gris improvisé fait de chiffon attaché au bras et un morceau d'os poli, gros comme une montre, fiché à plat dans la lèvre inférieure. Les rives boisées glissaient contre notre passage, lentement, la brève rumeur passait en arrière, les milles de silence étaient interminables, et nous nous traînions vers Kurtz. Mais les écueils étaient drus, l'eau très tresse et les fonds hauts. La chaudière semblait en vérité possédée d'un diable sournois, de sorte que ni ce chauffeur ni moi nous n'avions le temps d'un regard pour nos pensées insidieuses. À quelques 50 000 du poste de l'intérieur, nous rencontrâmes une cabane de roseaux, avec un poteau penché, mélancolique, d'où flottaient les lambeaux méconnaissables de ce qui avait été jadis une façon de drapeau et un tas de bois empilés avec soin. C'était inattendu. Nous abordâmes, et sur le tas de bois, nous trouvâmes un morceau de carton portant un crayonnage pâli. Déchiffré, cela disait, « Du bois pour vous, dépêchez-vous, approchez prudemment. » Il y avait une signature, mais illisible. Pas Kurtz, un mot beaucoup plus long. Se dépêcher, vers où? Vers l'amont? Approchez prudemment. Nous ne l'avions pas fait, mais l'avertissement ne pouvait pas s'appliquer à l'endroit d'où il fallait d'abord s'approcher pour le trouver. Quelque chose clochait en amont. Mais quoi? Et à quel point? C'était la question. Nous commentâmes sévèrement l'imbécilité de ce style télégraphique. La brousse autour de nous ne disait rien, ni ne laissait pénétrer loin nos regards. Un rideau de croisées rouges déchirées pendait dans la porte de la cabane et nous battait tristement le visage. L'habitation était dégarnie, mais on voyait qu'un blanc y avait vécu il n'y avait pas si longtemps. Il restait une table grossière, une planche sur deux poteaux, des débris s'entassaient dans un coin sombre, et près de la porte je ramassais un livre. Il avait perdu sa couverture, et à force d'avoir été tourné, les pages étaient extrêmement sales et ramollies, mais le dos avait été pieusement recousu de fil blanc qui semblait encore propre. C'était une extraordinaire trouvaille. Le titre était « Recherche sur quelques points de navigation » par un nommé Towson, quelque chose comme ça, maître en la marine royale. La matière semblait d'assez pénible lecture, avec des diagrammes pour l'illustrer et de rébarbatives tables de chiffres, et l'exemplaire avait 60 ans. Je maniais cette stupéfiante antiquité avec la plus grande tendresse possible, de peur qu'elle ne se dissolve dans mes mains. Là-dedans, Towson ou Towser s'enquérait gravement de la force de résistance des chaînes de navires et des gréements et de tels autres sujets. Pas très captivant, mais au premier regard, on y voyait une unité de dessin, un souci honnête de la bonne façon de se mettre à l'œuvre, qui rendait ces humbles pages, pensées il y avait tant d'années, lumineuses d'une lumière autre que professionnelle. L'honnête vieux marin, avec ses propos sur les chaînes et les catarus, me fit oublier la jungle et les pèlerins en une sensation délicieuse d'avoir rencontré quelque chose d'indubitablement réel. Qu'un tel livre se trouvât là, c'était assez étonnant. Mais plus surprenante encore étaient les notes au crayon dans la marge, clairement liées au texte. Je n'en croyais pas mes yeux. Elles étaient codées. Oui, cela semblait bien un chiffre. Voyez-vous un homme traîner avec lui un livre de cette sorte, dans cette absence de lieu, et l'étudier, et prendre des notes, et en code en plus, c'était un mystère extravagant. J'étais vaguement conscient depuis un moment d'un bruit préoccupant, et quand je levai les yeux, je vis que le tas de bois n'était plus là, et que le directeur, aidé de tous les pèlerins, m'appelait à grands cris du bord de l'eau. Je glissai le livre dans ma poche. Je vous assure que de cesser de lire, c'était comme de m'arracher à l'abri d'une vieille et solide amitié. Je mis en marche ce moteur bancal. « Ça doit être ce misérable trafiquant, cet intrus !» s'exclama le directeur, regardant derrière lui d'un œil malveillant l'endroit que nous venions de quitter. « Il doit être anglais, » dis-je. « Ça ne l'empêchera pas d'avoir des ennuis s'il n'y prend pas garde, » marmonna le directeur sinistrement. Je fis remarquer avec une feinte innocence que nul n'était garanti contre les ennuis dans ce monde. Le courant était plus rapide maintenant, le vapeur semblait à son dernier souffle, la roue arrière flottait mollement, et je me surpris à écouter sur la pointe des pieds le prochain battement du bateau, car pour dire l'honnête vérité, je m'attendais à voir le misérable outil rendre l'âme à tout moment. C'était comme d'observer les dernières lueurs d'une vie. Mais nous nous traînions toujours. Parfois je repérais un arbre un peu en avant pour mesurer notre progrès vers Kurtz, mais je le perdais invariablement avant que nous ne soyons de niveau. Garder les yeux trop longtemps fixés, c'était trop pour la patience humaine. Le directeur manifestait une belle résignation. Je me rongeais, je fumais, je me mis à discuter en moi-même si oui ou non je parlerais franchement avec Kurtz. Mais avant que je n'arrive à aucune conclusion, il me vint à l'esprit que ma parole ou mon silence, en vérité toute action possible, serait parfaitement futile. Qu'importait ce que tel ou tel savait ou ignorait, qu'importait qui était directeur. On reçoit parfois un tel éclair de révélation. L'essentiel de cette affaire gisait loin sous la surface, au-delà de mon atteinte et de mon pouvoir de m'en mêler. Vers le soir du second jour, nous jugeâmes que nous étions à 8 000 environ du poste de Kurtz. Je voulais poursuivre, mais le directeur prit un air grave et me dit que la navigation par là était si dangereuse qu'il serait sage, le soleil étant déjà très bas, d'attendre là où nous étions jusqu'au lendemain. En outre, il me fit remarquer que si l'avertissement d'avoir à approcher prudemment devait être suivi, il fallait approcher en plein jour, non pas au crépuscule ni dans le noir. C'était assez raisonnable. 8 000 signifiait, dans notre cas, près de 3 heures de navigation, et je voyais aussi des ondulations suspectes à l'autre bout de cette longueur de fleuve. Néanmoins, j'étais irrité du délai au-delà de toute expression, et, il faut le dire, contre toute raison, car une nuit de plus n'importait guère après tant de mois. Comme nous étions bien pourvus de bois, et que prudence était le mot, je stoppai au milieu du fleuve. Il était sur cette longueur, étroit, rectiligne, entre des berges hautes comme une tranchée de chemin de fer. Le crépuscule s'y glissa longtemps avant le coucher du soleil. Le courant était lisse et rapide, mais une immobilité muette était installée sur les rives. Les arbres vivants, ficelés ensemble par les lianes et tous les buissons vifs du sous-bois, semblaient changés en pierre, jusqu'au plus mince rameau, jusqu'à la feuille la plus légère. Ce n'était pas un sommeil, pas un état naturel, mais une sorte de transe. On n'entendait pas le plus faible bruit d'aucune sorte. On regardait interdit et on commençait à se croire sourd, puis la nuit tomba d'un coup, vous frappant aussi bien de cécité. Vers 3 heures du matin, un gros poisson bondit et frappa l'eau si fort que je sautai comme si on avait tiré un coup de feu. Quand le soleil se leva, il y avait un brouillard blanc, très chaud et moite, et plus aveuglant que la nuit. Il ne bougeait ni n'avançait. Simplement, il était là, dressé tout autour comme une matière solide. À 8 ou 9 heures, à peu près, il se leva comme on lève un store. Nous eûmes la vision d'une multitude d'arbres étagés, de l'immense jungle enchevêtrée, avec la petite boule enflammée du soleil au-dessus, le tout parfaitement immobile, puis le store blanc redescendit sans heurts, comme s'il eût passé dans des glissières huilées. Je commandai de laisser filer la chaîne que nous avions commencé à relever. Elle n'avait pas fini sa course, avec un sourd cliquetis, qu'un cri très fort, comme d'infinie désolation, s'éleva dans l'air opaque. Il cessa. Une vocifération plaintive, modulée en discordance sauvage, nous remplit les oreilles. C'était tellement inattendu que mes cheveux se dressèrent sous ma casquette. Je ne sais comment les autres en furent frappés. À moi, il sembla que c'était la brume même qui avait hurlé, tellement soudaine et apparemment surgie de tous les côtés à la fois, s'était élevée cette tumultueuse et lugubre clameur. Elle culmina en une explosion précipitée de hurlements presque intolérablement excessifs, qui s'arrêta d'un coup, nous laissant raidis dans une variété de sottes attitudes, écoutant obstinément un silence presque aussi terrifiant et excessif. « Bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» bredouilla à mon coude un des pèlerins, un petit homme gras, blond de poils et roux de favori, qui portait des bottes à élastique et des pyjamas roses rentrés dans ses chaussettes. Deux autres restèrent bouche bée une minute entière, puis se précipitèrent dans la petite cabine, d'où ils ressurgirent aussitôt pour jeter des regards effarés, des Winchester armés à la main. Ce que nous pouvions voir n'était que la vapeur où nous étions, son contour brouillé comme s'il avait été sur le point de se dissoudre, et un ruban d'eau brumeuse, de peut-être 2 pieds de large, autour de lui, et c'était tout. Le reste du monde n'était nulle part, pour autant que nos yeux et nos oreilles fussent concernés. Parti, disparu, balayé, sans laisser un murmure ou une ombre. J'allais sur l'avant et je commandai que la chaîne fût allée au plus court, de sorte que nous soyons prêts à reprendre l'ancre et à pousser le bateau immédiatement si besoin était. « Attaquons-t-il ? » murmura une voix apeurée. « Nous serons tous massacrés dans ce brouillard, » dit un autre à voix basse. Les figures avaient des tics de tension, les mains tremblaient légèrement, les yeux oubliés de cligner. C'était fort curieux de voir le contraste entre l'expression des blancs et celle des noirs de notre équipage, qui était aussi étranger à cette partie du fleuve que nous, quoique leur contrée ne fût qu'à 800 000. Les blancs, très troublés, naturellement, avaient en outre un curieux air d'être douloureusement choqués par un tumulte aussi scandaleux. Les autres avaient une expression alerte, naturellement intéressée, mais leur visage était essentiellement calme, même ceux d'un ou deux qui ricanaient en hissant la chaîne. Plusieurs échangèrent des phrases courtes, grognées, qui semblaient régler la question de leur satisfaction. Leur chef, un jeune noir à large poitrine, sévèrement drapé d'étoffe à franges bleu foncé, avait la narine féroce et tous les cheveux artistement coiffés en bouclettes huileuses. Il était debout près de moi. « Ah ! » dis-je en signe d'amitié. « Prendre eux !» fit-il sèchement, ses yeux injectés de sang s'ouvrant plus large, avec une lueur de dents aiguës. « Prendre eux, nous donner eux. À vous, hein ? » demandai-je. « Qu'est-ce que vous leur feriez ?»« Mangez eux, » dit-il brièvement. Et s'appuyant du coude au bastingage, il regardait le brouillard dans une attitude digne et profondément pensive. J'aurais été sans nul doute proprement horrifié s'il ne m'était pas venu à l'esprit que lui et ses gars, ils devaient avoir très faim, qu'ils devaient avoir de plus en plus faim depuis au moins un mois. On les avait engagés pour 6 mois. Je ne pense pas qu'un seul d'entre eux avait une idée claire du temps, du genre de la nôtre au bout d'époque sans l'ombre. Ils appartenaient encore au commencement des âges, sans aucune expérience héritée pour les enseigner, en somme. Et naturellement, du moment qu'il y avait un bout de papier écrit en accord avec quelques lois burlesques fabriquées au bas du fleuve, il n'était entré dans la tête de personne de se demander comment ils vivraient. Bien sûr, ils avaient apporté de la viande d'hippopotame pourrie qui n'aurait pas duré longtemps, n'importe comment, même si les pèlerins n'en avaient pas, au milieu de braillements abominables, jeté une quantité considérable par-dessus bord. Ce qui semblait un comportement tyrannique, mais qui était réellement un cas de légitime défense, on ne peut pas, éveillé, endormi, mangeant, respirer de l'hippopotame mort et en même temps garder une prise précaire sur l'existence. En outre, on leur avait donné chaque semaine 3 longueurs de fil de cuivre, chacun d'environ 25 cm, et la théorie était qu'ils devaient, avec cette monnaie, acheter leurs provisions dans les villages de la rive. Vous imaginez comment ça marchait. Soit il n'y avait pas de village, soit la population était hostile, soit le directeur, qui comme nous tous se nourrissait de conserves, avait pour ne pas arrêter le vapeur une raison plus ou moins obscure. Ainsi, à moins qu'ils n'avaient ce même fil, ou qu'ils n'en faisaient des boucles pour attraper les poissons, je ne vois pas quel profit ils pouvaient avoir de leur absurde salaire. Je dois dire qu'il était payé avec une régularité digne d'une grande et honorable compagnie commerciale. Pour le reste, la seule chose à manger, bien qu'elle ne parût pas mangeable moins du monde, que j'ai vue en leur possession, c'était quelques boules d'une substance comme de la pâte mi-cuite, couleur lavande sale, qu'ils gardaient enveloppés de feuilles, et dont de temps à autre ils avalaient un morceau, mais si petit que cela semblait plutôt fait pour la forme que pour une intention sérieuse de s'alimenter. Pourquoi, au nom de tous les tenaillements des diables de la faim, ils ne se jetaient pas sur nous, ils étaient à 30 contre 5, et ne se payaient pas une bonne ventrée pour une fois, cela me stupéfie maintenant que j'y pense. C'étaient des hommes de forte taille, sans grande capacité de peser les conséquences, avec du courage et de la force, encore maintenant, bien que leur peau ne fût plus si luisante, ni leurs muscles si fermes. Je voyais qu'une force contraignante, un de ces secrets humains qui déroutent les probabilités, était entré en jeu. Je les regardais avec un intérêt avivé, non qu'il me vînt à l'esprit que je pourrais être mangé par eux avant longtemps, quoique je doive vous avouer qu'à ce moment précis je perçus, dans un éclairage nouveau, en quelque sorte, l'aspect combien malsain des pèlerins, et j'eus l'espoir, oui, positivement l'espoir, de n'avoir pas l'air si, comment dire, si peu appétissant. Une marque d'extravagante vanité qui allait bien avec la sensation de rêve qui dominait mes jours en ce temps-là. Peut-être avais-je un peu la fièvre aussi. On ne peut pas vivre le doigt perpétuellement sur son pouls. J'avais souvent un peu de fièvre ou un petit accès d'autre chose, les coups de patte malicieux de la brousse, les amusements préliminaires avant l'assaut plus sérieux qui vint en son temps. Oui, je les regardais comme on ferait de tout être humain, avec la curiosité de leurs impulsions, de leurs motifs, de leurs capacités, de leurs faiblesses, quand ils seraient mis à l'épreuve d'une inexorable nécessité physique. Un frein ? Quel frein concevable ? Serait-ce la superstition, le dégoût, la patience, la crainte ou une espèce primitive d'honneur ? Nulle crainte ne tient contre la faim, nulle patience n'en viendrait à bout, le dégoût n'existe simplement pas où est la faim. Et quant à la superstition, aux croyances, à ce qu'il vous plaît de nommer principe, ils sont moins que fétus dans le vent. Ne connaissez-vous pas la force démoniaque d'un état d'inanition qui n'en finit pas, le tourment exaspérant, les pensées noires, la sombre férocité qui couve ? Moi, si. Cela demande toute la force innée d'un homme de combattre proprement la faim. Il est réellement plus facile de faire face à un deuil, un déshonneur, la perte de son âme, qu'à cette sorte de faim qui se prolonge. Triste, mais vrai. Et ces gars, en plus, n'avaient de raison concevable pour aucune espèce de scrupule. Un frein ? Je me serais aussi bien attendu à en rencontrer chez une hyène rôdant parmi les cadavres d'un champ de bataille. Mais le fait était là, devant moi, éblouissant, visible, comme l'écume sur les fonds marins, comme une ride sur une énigme insondable. Un mystère plus grand, quand j'y pensais, que la note curieuse, inexplicable, de douleur désespérée de cette clameur sauvage qui avait passé sur nous depuis la rive, derrière la blancheur aveugle du brouillard. Deux pèlerins argumentaient avec des murmures précipités concernant la rive en cause. Gauche. Non, non, vous n'y pensez pas. Droite, droite, bien sûr. C'est très sérieux, dit la voix du directeur derrière moi. Je serais désolé si quelque chose arrivait à M. Kurtz avant notre arrivée. Le regardant, je ne pouvais avoir le moindre doute de sa sincérité. C'était tout à fait le type d'homme qui souhaiterait sauver les apparences. C'était son frein à lui. Mais quand il marmonna quelque chose sur l'urgence de repartir aussitôt, je ne pris même pas la peine de lui répondre. Je savais, et il savait, que c'était impossible. Si nous lâchions notre prise sur le fond, nous serions absolument en l'air, dans l'espace. Nous n'aurions nul moyen de dire où nous allions, si c'était vers l'amont, vers l'aval, ou de côté, jusqu'à ce que nous ayons touché un bord ou l'autre, sans d'abord savoir lequel. Bien entendu, je ne fis rien. Je n'avais pas envie de tout démolir. Vous ne pourriez pas imaginer un endroit plus fatal pour un naufrage. Que nous soyons noyés sur le coup ou pas, nous étions sûrs de périr rapidement d'une façon ou d'une autre. « Je vous autorise à prendre tous les risques, » dit-il, après un court silence. « Je refuse d'en prendre aucun, » dis-je sèchement, ce qui était exactement la réponse qu'il attendait, bien que le ton ait pu le surprendre. « Bon, je dois m'incliner devant votre jugement. Vous êtes le capitaine, » dit-il avec une civilité marquée. Je tournai l'épaule vers lui en signe d'appréciation et je regardai le brouillard. Combien de temps durerait-il? C'était la perspective la plus désespérée. Notre approche de ce Kurtz farfouillant en quête d'ivoire dans cette misérable brousse était semée d'autant de périls que s'il avait été une princesse enchantée dormant dans un château fabuleux. « Attaqueront-ils, à votre avis ?» demanda le directeur sur un ton confidentiel. Je ne pensais pas qu'ils attaquent pour plusieurs raisons évidentes. L'épais brouillard en était une. S'ils quittaient la rive dans leur pirogue, ils se perdraient dedans, comme nous si nous tentions de bouger. Cependant, j'avais aussi jugé la jungle des deux rives parfaitement impénétrable, et pourtant elle recélait des yeux qui nous avaient vus. Les buissons des bords étaient à coup sûr très denses, mais le sous-bois par derrière était évidemment pénétrable. Pourtant, pendant la courte éclaircie, je n'avais pas vu de pirogue, nulle part sur cette longueur de fleuve, certainement pas à notre hauteur. Mais ce qui rendait l'idée d'une attaque inconcevable pour moi, c'était la nature du bruit, des cris que nous avions entendus. Il n'avait pas le caractère furieux qui annoncerait une intention immédiatement hostile. Inattendu, sauvage, violent comme ils avaient été, ils m'avaient donné une impression irrésistible de tristesse. La vision du vapeur avait pour une raison quelconque rempli ces sauvages d'un chagrin sans borne. Le danger, s'il existait, exposais-je, venait de ce que nous approchions du lieu où une grande passion humaine se déchaînait. L'extrémité de la douleur même peut finalement s'exprimer par la violence, bien qu'elle prenne plus fréquemment la forme de l'apathie. Ah, si vous aviez vu les regards des pèlerins, ils n'avaient pas le cœur à ricaner, ni même à m'injurier, mais je crois bien qu'ils pensaient que j'étais devenu fou, de peur peut-être. Je fis une vraie conférence. Mes bons amis, il n'y avait pas à se tracasser. Faire le guet, eh bien, vous pouvez croire que je surveillais le brouillard en quête de signes qu'il se levait, comme un chat guette une souris. Pour toute autre chose, nos yeux ne nous étaient pas plus utiles que si nous avions été ensevelis sous des kilomètres d'ouates. Et on en avait la sensation, étouffante, chaude, suffocante. En outre, tout ce que je disais, bien que cela pût paraître extravagant, était simplement vérité de fait. Ce que par la suite nous qualifiâmes d'attaque était réellement une tentative pour nous repousser. L'action était loin d'être agressive, elle n'était même pas défensive, dans le sens ordinaire du terme. Elle était entreprise dans la tension du désespoir, et en essence était purement de protection. Elle se développa, ajoutons-le, 2 heures après que le brouillard se fût levé, et commença à un endroit situé, approximativement, à 1,5 milles au-dessous du poste de Kurtz. Nous avions tourné une boucle, barbotant et vasouillant, quand je vis un îlot, une simple motte herbeuse d'un vert vif, au milieu du fleuve. C'était la seule chose de son espèce. Mais quand le cours s'ouvrit plus largement, je vis que cela formait la tête d'un long banc de sable, ou plutôt d'une chaîne de plaques de surface qui s'allongeait au milieu du fleuve. Elles étaient délavées, au ras de l'eau, et l'ensemble était tout juste visible dessous, exactement comme l'échine d'un homme se voit courant à mi-dos sous la peau. Ainsi, pour autant que je puisse voir, je pouvais passer à leur droite ou à leur gauche. Je ne connaissais bien entendu ni l'un ni l'autre chenal. Les berges paraissaient assez semblables, la profondeur semblait la même. Mais comme j'avais été informé que le poste était sur la rive occidentale, je mis naturellement le cap sur le passage ouest. Nous n'y étions pas plus tôt engagés que je me rendis compte qu'il était bien plus étroit que je n'avais supposé. À notre gauche était le haut fond ininterrompu, et à notre droite une haute berge abrupte à couverture dense de buissons. Au-dessus de la brousse, les arbres se dressaient en rang serré. Les rameaux surplombaient massivement le courant, et de loin en loin une grosse branche s'allongeait rigide sur le fleuve. Nous étions maintenant avancés dans l'après-midi, la face de la forêt était sombre, et une large bande d'ombre était déjà descendue sur l'eau. Dans cette ombre nous poussions de l'avant, très lentement, vous vous en doutez. J'obliquais fort vers la rive, car c'est là que l'eau était la plus profonde, comme me le disait la perche de sondage. L'un de mes amis, affamé et endurant, sondait à l'avant exactement sous moi. Ce vapeur était fait comme un chaland ponté. Sur le pont se dressaient deux petits roufs avec des portes et fenêtres. La chaudière était sur l'avant et les machines en plein arrière. Le tout était couvert d'un toit léger soutenu par des montants. La cheminée dépassait au travers et devant la cheminée, une petite cabine bâtie de planches légères servait au pilotage. Elle contenait une couchette, deux pliants, une carabine chargée Martini-Henri, à côté dans un coin, une table minuscule et la roue. Elle avait une large porte par devant et un grand volet de chaque côté. Tout cela était toujours grand ouvert, naturellement. Je passais mes journées perchées là-haut à l'extrême avancée de ce toit, devant la porte. La nuit, je dormais, ou j'essayais, sur cette couchette. Un noir athlétique appartenant à quelques tribus de la côte et instruit par mon pauvre prédécesseur était le timonier. Il était paré d'une paire d'anneaux d'oreilles en cuivre, portait un pagne d'étoffe bleue de la taille aux chevilles et se tenait en prodigieuse estime. C'était le sot le plus capricieux que j'ai jamais vu. Il barrait à vous époustoufler quand vous étiez là, mais s'il vous perdait de vue, il devenait instantanément la proie d'une panique abjecte et laissait cette éclopée de vapeur lui faire la loi en une minute. Je regardais le piquet de sondage et j'étais fort mécontent d'en voir un peu plus hors de l'eau à chaque essai, quand je vis mon sondeur lâcher le travail d'un seul coup et s'allonger à plat sur le pont sans même prendre la peine de haler son piquet. Il le tenait toujours cependant et le laissait traîner dans l'eau. En même temps, le chauffeur, que je voyais aussi sous moi, s'assit brusquement devant son foyer et courba la tête. J'étais stupéfait. Puis il fallut que je regarde le fleuve en toute hâte, parce qu'il y avait un obstacle dans le passage. Des bâtons, de petits bâtons, volaient de rue. Ils me sifflaient devant le nez, ils tombaient devant moi, ils frappaient derrière moi contre ma cabine de pilotage. Tout ce temps, le fleuve, la côte, les bois étaient fort paisibles, parfaitement paisibles. Je n'entendais que le lourd battement de la roue arrière éclaboussant l'eau et le tambourinage de ses objets. Nous doublâmes l'obstacle, gauchement. Des flèches, pardieu, on nous tirait dessus. Je rentrais vite fermer le volet du côté terre. Cet imbécile de timonier, les mains sur les rayons, levait haut les genoux, battait les pieds, mâchonnait comme un cheval tenu de cour. Le diable l'emporte. Nous zigzaguions à 10 pieds de la rive. Il fallut que je me penche en plein pour faire pivoter le lourd volet, et je vis une figure parmi les feuilles au niveau de la mienne, qui me regardait, très féroce et décidée. Et soudain, comme si un voile s'était levé devant mes yeux, je distinguais, enfoncés dans la confusion obscure, des poitrines nues, des bras, des jambes, des regards furieux, la brousse fourmillée de membres humains en mouvement, luisants, couleur de bronze. Les rameaux remuaient, s'agitaient, bruissaient, les flèches empartaient, et puis le volet fut clos. « Gouvernez droit devant !» dis-je au timonier. Il tenait la tête raide, de pleine face, mais ses yeux roulaient, il continuait à lever et baisser les pieds doucement, sa bouche écumait un peu. « Tenez-vous tranquille !» dis-je en fureur. Autant commander à un arbre de ne pas osciller dans le vent. Je bondis dehors. Au-dessous de moi, il y avait un grand bruit de pieds sur le pont de fer. Des exclamations confuses. Une voix hurla « Pouvez-vous faire demi-tour ?» J'aperçus une ondulation en V sur l'eau devant nous. « Quoi ? Un autre obstacle ?» Une fusillade éclata sous mes pieds. Les pèlerins avaient fait feu de leur Winchester et lâchaient tout bonnement du plomb dans la brousse. Un satané nuage de fumée monta et dériva doucement vers l'avant. Je jurai. Maintenant, je ne pouvais plus voir l'ondulation ni l'obstacle. Je me tenais dans la porte, écarquillant les yeux, et les flèches arrivaient par essaim. Elles étaient peut-être empoisonnées, mais elles n'avaient pas l'air bonnes à tuer un chat. La brousse se mit à hurler. Nos coupeurs de bois poussèrent un cri de guerre. La détonation d'une carabine droit derrière mon dos m'assourdit. Je regardais par-dessus mon épaule, et la cabine de pilote était encore pleine de bruit et de fumée quand je fis un bond vers la roue. Cet idiot de nègre avait tout lâché pour ouvrir grand le volet et actionner la Martini Henry. Il se tenait devant la large ouverture, les yeux écarquillés, et je lui criais de revenir, tandis que je rectifiais l'inflexion soudaine du vapeur. Il n'y avait pas la place de tourner, même si je l'avais voulu. L'écueil était quelque part très proche devant dans cette maudite fumée. Il n'y avait pas de temps à perdre, de sorte que je ne pus que serrer la rive en plein, là où je savais que l'eau était profonde. Nous frôlions lentement les buissons surplombant dans un tourbillon de branchages cassés et de feuilles volantes. La fusillade en bas tourna court, comme j'avais prévu qu'elle ferait quand les chargeurs seraient vides. Je rejetai la tête en arrière quand une lueur sifflante traversa la cabine de pilotage, entrant par le trou d'un volet et sortant par l'autre. Mon regard au-delà de ce timonier fou qui brandissait la carabine vide et braillait vers la côte, vit des formes vagues d'hommes qui couraient courbés en deux, sautant, glissant, distincts, partiels, évanescents. Quelque chose d'épais parut en l'air devant le volet, la carabine passa par-dessus bord, et l'homme fit un pas rapide en arrière, me regarda par-dessus son épaule d'une façon extraordinaire, profonde, familière, et me tomba sur les pieds. Le côté de sa tête frappa deux fois la roue, et le bout de ce qui semblait une longue canne tourna bruyamment et renversa un petit pliant. On aurait dit qu'après avoir arraché cet objet à quelqu'un du rivage, il avait perdu l'équilibre dans son effort. La mince fumée avait été emportée, nous avions doublé l'écueil, et regardant devant moi, je vis que 100 mètres de là environ, je serais libre de m'éloigner de la rive et de prendre le large. Mais je me sentais les pieds si chauds et mouillés que je dus baisser les yeux. L'homme avait roulé sur le dos et me fixait du regard. Ses deux mains avaient empoigné cette canne. C'était la tige d'un javelot qui, soit jeté ou poussé par l'ouverture, l'avait touché au côté juste sous les côtes. La lame était passée hors de vue, après avoir fait une déchirure effrayante. Mes souliers étaient tout pleins. Il y avait une mare de sang très immobile, luisant rouge sombre, sous la roue. Ses yeux brillaient d'un éclat stupéfiant. La fusillade éclata de nouveau. Il me regardait anxieusement, serrant le javelot comme quelque chose de précieux, avec l'air d'avoir peur que j'essaie de le lui enlever. Il me fallut faire un effort pour libérer mes yeux de son regard et m'occuper de la barre. D'une main, je cherchais au-dessus de ma tête la corde du sifflet à vapeur et je lâchais en hâte, stridence après stridence. Le tumulte de braillements coléreux et guerriers fut aussitôt arrêté, et alors des profondeurs des bois s'éleva une lamentation, tremblante et prolongée, de lugubre crainte et de total désespoir, tel qu'on l'imaginerait suivant la perte du dernier espoir sur la terre. Il y eut une grande agitation dans la brousse, l'averse de flèches s'arrêta, quelques coups de feu s'égrenèrent, sonores, puis ce fut le silence, dans lequel le battement languide de la roue arrière m'arrivait distinctement à l'oreille. Je mis la barre à tribord tout au moment où le pèlerin en pyjama rose, en sueur et très agité, apparaissait dans la porte. « Le directeur m'envoie » commença-t-il sur un ton formel et s'arrêta court. « Grand Dieu » s'écria-t-il, les yeux fixés sur le blessé. Les deux blancs que nous étions se tenaient au-dessus de lui, et son regard brillant et interrogateur nous enveloppait tous les deux. Ma foi, il semblait sur le point de nous poser une question en langue intelligible. Mais il mourut sans proférer un son, sans bouger un membre, sans contracter un muscle. Seulement au tout dernier moment, comme en réponse à quelques signes que nous ne pouvions pas voir, à quelques murmures que nous ne pouvions pas entendre, il fronça fortement le sourcil, ce qui donna à la noirceur de son masque de mort une expression inimaginablement sombre, préoccupée, menaçante. L'éclat du regard interrogateur fit bientôt place à une absence vitreuse. « Savez-vous gouverner ?» demandai-je vivement à l'agent. Il parut très incertain, mais je lui empoignai le bras et il comprit aussitôt que j'avais décidé qu'il gouvernerait en tout état de cause. À dire vrai, j'avais un besoin maladif de changer de souliers et de chaussettes. « Il est mort !» murmura le type, immensément impressionné. « Sans nul doute, » dis-je, tirant comme un fou sur les lacets. « Et entre nous, je suppose que M. Kurtz est mort aussi à présent. » Pour le moment, c'était la pensée dominante. Un sentiment d'extrême désappointement se faisait jour, comme si je m'étais aperçu que je m'étais tendu vers une chose absolument privée de substance. Je n'aurais pas pu me sentir plus écœuré si j'avais fait tout ce voyage dans le seul dessein de causer avec M. Kurtz. Causer avec. Je jetai un soulier par-dessus bord, et je me rendis compte que c'était exactement cela que j'avais escompté, une conversation avec M. Kurtz. Je fis l'étrange découverte que je ne l'avais jamais imaginée agissant, voyez-vous, mais discourant. Je ne me dis pas « maintenant je ne le verrai jamais » ou « maintenant je ne lui serrerai jamais la main », mais « maintenant je ne l'entendrai jamais ». L'homme se présentait comme une voix. Ce n'est pas, bien sûr, que je ne l'ai pas rattaché à quelque forme d'action. Ne m'avait-on pas dit, sur tous les tons de la jalousie et de l'admiration, qu'il avait ramassé, échangé, escroqué ou volé plus d'ivoire que tous les autres agents réunis? Ce n'était pas la question. La question était que c'était un être doué, et que de tous ses dons, celui qui ressortait de façon prééminente, qui comportait le sens d'une présence réelle, c'était son aptitude verbale, ses paroles, le don d'expression, déconcertant, illuminant, le plus exalté et le plus méprisable, le flot battant de lumière ou de flux trompeurs émanés du cœur de ténèbres impénétrables. L'autre soulier vola à l'adresse du dieu démon de ce fleuve. Je pensais, par Dieu, tout est fini. Nous arrivons trop tard. Il a disparu, le don a disparu par l'effet d'un javelot, d'une flèche, d'une massue. Finalement, je n'entendrai jamais parler ce type, et ma tristesse participait d'une stupéfiante extravagance d'émotions, tout à fait du même ordre que celle que j'avais remarquée dans la tristesse hurlante de ces sauvages de la brousse. Je n'aurais pu ressentir pire désolation ni pire solitude si je m'étais vu dérober une croyance ou si j'avais manqué ma destinée. Pourquoi soupirer si détestablement quelqu'un? Absurde, bon, absurde. Seigneur, ne faut-il jamais... Allez, passez-moi du tabac. Il y eut une pause de profonde immobilité, puis une allumette flamba, et le maigre visage de Marlowe apparut, là, creux, avec des plis tombants, les paupières baissées, et un air d'attention concentré. Et comme il tirait vigoureusement sur sa pipe, il semblait reculer, puis avancer hors de la nuit dans le papillotement régulier de la petite flamme. L'allumette s'éteignit. « Absurde ! » s'écria-t-il. « C'est le pire d'essayer de raconter. » Vous voilà tous, amarrés chacun à deux bonnes adresses, comme un rafiot à ses deux ancres, un boucher à un coin de rue, un agent de police à l'autre, bon appétit, température normale, vous entendez bien, normal d'un bout de l'année à l'autre, et vous dites « absurde, au diable absurde, absurde ». Mes chers garçons, que pouvez-vous attendre d'un homme qui, parce qu'il a ses nerfs, vient de flanquer par-dessus bord une paire de souliers neufs? Maintenant que j'y pense, je suis bien surpris de n'avoir pas versé des larmes. Je suis, tout considéré, fier de ma force d'âme. J'étais touché à vif à l'idée que j'avais perdu le privilège inestimable d'écouter le talentueux Kurtz. Naturellement, je me trompais. Le privilège m'attendait. Ah oui, j'en entendis plus qu'assez. Et j'avais raison, par ailleurs. Une voix. Il n'était guère autre chose qu'une voix. Et je l'entendis, lui, elle, cette voix, d'autres voix. Tout cela n'était guère plus que des voix, et le souvenir de ce temps même traîne autour de moi, impalpable, comme la vibration mourante d'une immense jacasserie, stupide, atroce, sordide, sauvage ou simplement mesquine, et sans aucun sens. Des voix, même la jeune fille. Alors, il resta longtemps silencieux. J'ai fini par exorciser le fantôme de ses talents, par un mensonge, reprit-il soudain. « La jeune fille, hein? Ai-je parlé d'une jeune fille? Ah, elle est en dehors du coup, complètement. Elles, les femmes, veux-je dire, sont hors de cause, doivent l'être. Il faut les aider à rester dans le beau monde qui est le leur, de peur que le nôtre se gâte plus. Ah, il fallait qu'elles soient en dehors. Si vous aviez entendu le corps déterré de M. Kurtz dire « ma promise », vous auriez senti immédiatement à quel point elle était hors du cou. Et le noble os frontal de M. Kurtz. On dit que les cheveux continuent à pousser parfois, mais ce spécimen portait une calvitie impressionnante. La brousse l'avait tapoté sur la tête, et voici, c'était comme une boule d'ivoire. Elle l'avait caressé, et voilà, il s'était flétri. Elle l'avait pris, aimé, étreint, était entré dans ses veines, avait consumé sa chair, avait soudé leurs âmes par les cérémonies inimaginables de quelques initiations diaboliques. Il était son favori, gâté et choyé. De l'ivoire, je crois bien, des tas, des piles. Le vieil abri de Pivet en était bourré à éclater. on aurait pensé qu'il ne restait pas d'une seule défense sur pied ou en terre dans tout le pays. Surtout fossile, avait observé le directeur, critique. Il n'était pas plus fossile que moi, mais il l'appelle fossile quand il est déterré. Il a peur que ces nègres enterrent parfois les défenses, mais évidemment il n'avait pas pu enterrer ce lot assez profondément pour sauver M. Kurtz de son destin. Nous en remplîmes le vapeur, et il fallut en empiler une quantité sur le pont, de sorte qu'il put le voir et en jouir tant qu'il put voir, car il garda son appréciation de cette faveur jusqu'au bout. Il fallait l'entendre dire « mon ivoire ». Ah oui, je l'ai entendu. Ma promise, mon ivoire, mon poste, mon fleuve, mon... Tout était à lui. J'en retenais mon souffle dans l'attente d'entendre la brousse partir d'un prodigieux éclat de rire qui serait à secouer les étoiles fixes en leur lieu. Tout était à lui, mais c'était une bagatelle. Le point, c'était de savoir à quoi, lui, il appartenait, combien de puissance des ténèbres revendiquées pour l'heure. C'était la réflexion qui vous faisait frémir tout entier. C'était impossible, et ce n'était pas non plus salutaire de se risquer à l'imaginer. Il occupait un siège élevé parmi les diables de cette terre, je l'entends littéralement. Vous ne comprenez pas. Comment feriez-vous, avec du pavé solide sous les pieds, entouré de bons voisins prêts à vous applaudir ou à vous tomber dessus, allant à pas compter du boucher à l'agent de police, dans la sainte terreur du scandale, de la potence et de la maison de fous, comment imagineriez-vous la région précise des premiers temps où la démarche sans entrave d'un homme peut l'entraîner, en passant par la solitude absolue sans agent de police, par le silence absolu où ne s'entend nulle voix de bon voisin, d'avertissement chuchoté touchant l'opinion publique. Ces petites choses font toute une énorme différence. En leur absence, il faut retomber sur sa force intérieure, sur sa propre capacité de fidélité. Naturellement, il se peut qu'on soit trop sot pour se fourvoyer, trop obtus pour savoir seulement qu'on est assailli par les puissances des ténèbres. Je présume qu'aucun sot n'a jamais marchandé son âme au diable. Le sot est trop sot, ou le diable est trop diabolique, je ne sais. Ou il se peut que vous soyez un être si formidablement exalté que vous resterez absolument sourd et aveugle à tout, sauf au céleste visible ou audible. Alors la terre pour vous n'est qu'un lieu où vous tenir, et que cet état soit pour votre perte ou votre profit, je ne me prononcerai pas. Mais la plupart d'entre nous ne sont ni l'un ni l'autre. La terre pour nous est un lieu où vivre, où il faut se faire à des spectacles, des bruits, des odeurs aussi, bon Dieu, respirer l'hippopotame mort, pour ainsi parler, et ne pas être contaminé. Et c'est là, voyez-vous, qu'on trouve sa force, la foi en sa capacité de creuser de modestes trous pour y enterrer la camelote, son pouvoir de dévouement, non à soi-même, mais à un labeur obscur, éreintant. Et c'est rudement difficile. Notez bien, je n'essaie pas d'excuser ou même d'expliquer, j'essaie de me rendre raison de M. Kurtz, de l'ombre de M. Kurtz. Ce spectre initié de l'ultime nulle part m'honora de ses stupéfiantes confidences avant de disparaître absolument. C'est qu'il pouvait me parler anglais. Le Kurtz originel avait été élevé en partie en Angleterre, et comme il eut la bonté de le dire, ses sympathies allaient où il fallait. Sa mère était à demi anglaise, son père était à demi français. Toute l'Europe avait contribué à la création de Kurtz. Et par degrés, j'appris, comme c'était tout indiqué, l'Association internationale pour la suppression des coutumes sauvages lui avait confié la préparation d'un rapport pour sa gouverne future. Et de plus, il l'avait écrit. Je l'ai vu, je l'ai lu. Il était éloquent, vibrant d'éloquence, mais trop tendu, à mon sens. 17 pages d'écriture serrée, il en avait trouvé le temps. Mais ce dut être avant que ses nerfs se détraquent, lui faisant présider certaines danses nocturnes couronnées par des rides inavouables qui, pour autant que j'ai pu le comprendre, parce que j'ai entendu malgré moi à diverses reprises, lui étaient offerts. Vous saisissez à lui, M. Kurtz. Mais c'était un beau morceau d'écriture. Le paragraphe d'ouverture, toutefois, à la lumière d'informations ultérieures, me frappe maintenant comme de mauvais augure. Il commence par l'argument que nous autres blancs, du point de développement auquel nous sommes arrivés, doivent nécessairement leur apparaître, aux sauvages, comme une classe d'êtres surnaturels. À notre approche, ils perçoivent une puissance comme d'une déité, etc. Par le simple exercice de notre volonté, nous pouvons exercer un pouvoir bénéfique pratiquement sans limite, etc. De ce point, il s'élevait et m'entraînait. La péroraison était magnifique, bien que difficile à se rappeler, comme vous pensez. Elle me donnait l'idée d'une immensité exotique gouvernée par une auguste bienfaisance. Elle me donna des picotements d'enthousiasme. C'était là le pouvoir sans borne de l'éloquence, des mots nobles et brûlants. Il n'y avait pas une suggestion pratique pour interrompre le cours magique des phrases, à moins qu'une espèce de note au bas de la dernière page, gribouillée évidemment beaucoup plus tard, d'une écriture tremblée, ne pût être regardée comme l'exposé d'une méthode. C'était très simple, et à la fin de cet appel émouvant à tous les sentiments altruistes qu'il faisait flamboyer devant vous, lumineux et terrifiant, comme un éclair dans un ciel serein, « Exterminez toutes ces brutes !» Le curieux de la chose, c'est qu'il avait apparemment oublié complètement ce précieux post-scriptum, car plus tard, quand en un sens il revint à lui, il m'adjura à maintes reprises de prendre bien soin de « mon mémoire », comme il l'appelait, car il aurait sûrement dans l'avenir une influence favorable sur sa carrière. Je fus pleinement éclairé sur tout cela, et en outre, comme il se trouva, j'étais appelé à avoir la charge de son souvenir. J'ai fait assez en ce sens pour me donner le droit incontestable de l'ensevelir, si bon me semble, pour un éternel repos dans la poubelle du progrès, parmi toutes les balayures et, en style figuré, tous les chats morts de la civilisation. Mais voyez-vous, ce n'est pas comme bon me semble. Il est inoubliable. Quoi qu'il ait pu être, il n'était pas vulgaire. Il avait le pouvoir de charmer ou d'effrayer des esprits rudimentaires pour les entraîner dans la danse d'un sabbat perverti en son honneur. Il pouvait aussi emplir les petites âmes des pèlerins d'amères appréhensions. Il eut au moins un ami dévoué, et il avait séduit une âme au monde qui n'était ni rudimentaire, ni entachée d'égoïsme. Non, je ne peux pas l'oublier, bien que je ne sois pas disposé à affirmer qu'il valait absolument la vie que nous perdîmes en le rejoignant. Mon timonier mort me manqua terriblement. Il me manquait déjà quand son corps gisait encore dans la cabine de pilotage. Peut-être trouverez-vous cela bizarre à l'excès, ce regret pour un sauvage qui ne comptait pas plus qu'un grain de sable dans un Sahara noir. Eh bien, voyez-vous, il avait fait quelque chose, il avait gouverné. Des mois, je l'avais vu à ma disposition, une aide, un instrument. C'était une sorte de collaboration. Il gouvernait pour moi, j'avais à veiller sur lui, j'étais préoccupé de ses insuffisances, et ainsi un lien subtil s'était créé, dont je ne pris conscience que quand il fut soudain brisé. Et l'intime profondeur de ce regard qu'il me donna, quand il fut frappé, reste jusqu'à ce jour dans ma mémoire, comme un droit de lointaine parenté affirmé en un moment suprême. Pauvre sot, s'il avait seulement laissé tranquille ce volet, il n'avait pas d'empire sur lui-même, pas d'empire, tout comme Kurtz, un arbre oscillant dans le vent. Dès que j'eus mis une paire de pantoufles sèches, je le traînai dehors, après avoir d'abord arraché le javelot de son flanc, une opération que j'accomplis, je dois l'avouer, les yeux bien fermés. Ses talons sautèrent par-dessus le petit seuil, ses épaules étaient serrées contre ma poitrine, je l'étreignais par derrière désespérément. Ah ! Il était lourd, lourd, plus lourd qu'homme au monde, je crois bien. Puis sans cérémonie, je le balançai par-dessus bord. Le courant le saisit comme s'il eût été un brin d'herbe, et je vis le corps rouler deux fois sur lui-même avant de le perdre de vue à jamais. Tous les pèlerins et le directeur étaient alors rassemblés sous la tente de pont près de la cabine de pilotage, jacassant l'un avec l'autre comme une volée de pies surexcitées, et un murmure scandalisé suivit mon insensible promptitude. Pourquoi ils voulaient rester encombrés de ce corps, je n'ai pas idée. Pour l'embaumer, peut-être. Mais j'avais aussi entendu un autre murmure, très menaçant, en bas sur le pont. Mes amis, les coupeurs de bois, étaient également scandalisés, et avec une meilleure apparence de raison, quoique je doive dire que la raison même était tout à fait inacceptable. Ah, tout à fait. J'avais résolu que si feu mon timonier devait être mangé, ce ne serait que par les poissons. Il avait été de son vivant un très piètre timonier, mais maintenant qu'il était mort, il aurait pu devenir une tentation de premier ordre, et peut-être la cause de quelques commotions redoutables. En outre, j'avais hâte de prendre la barre, l'homme au pyjama rose s'avérant désespérément empoté à ce travail. Je le fis donc dès que ces simples funérailles furent achevées. Nous marchions à vitesse réduite, nous tenant bien au milieu du courant, et j'écoutais la conversation autour de moi. Ils avaient renoncé à Kurtz, ils avaient renoncé au poste. Kurtz était mort et le poste était brûlé, et ainsi de suite. Le pèlerin au poil roux ne se tenait pas, de penser qu'au moins ce pauvre Kurtz avait été vengé comme il fallait. Dites donc, on a dû en faire un beau massacre de ces types dans la brousse, hein? Qu'en pensez-vous? Dites donc, positivement il en dansait, le petit salaud de rouquin sanguinaire, et il avait failli s'évanouir en voyant le blessé. Je ne pus m'empêcher de dire « Vous avez fait un beau volume de fumée, en tout cas. » J'avais vu, à la manière dont le haut des buissons bruissait et volait, que presque tous les coups avaient porté trop haut. On ne peut rien toucher si on n'a pas visé et si on ne tire pas de l'épaule. Mais ces bonhommes tiraient de la hanche, les yeux fermés. La retraite, je le soutenais, j'avais raison, avait été causée par les appels stridents du sifflet. Là-dessus, ils en oublièrent Kurtz, et ils se mirent à me brailler dessus avec des protestations indignées. Le directeur, qui se tenait près de la roue, murmurait d'un ton de confidence qu'il importait d'être passé bien en aval avant la tombée de la nuit au plus tard, quand je vis à distance un éclaircissement sur la rive et le contour d'une sorte de construction. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. D'étonnement, il frappa dans ses mains. « Le poste ! » s'écria-t-il. Je me rapprochai aussitôt, toujours à vitesse réduite. Dans mes jumelles, je vis la pente d'une colline parsemée de quelques arbres et parfaitement dégagée de broussailles. Un long bâtiment décrépit au sommet était à demi enseveli dans les hautes herbes. Les grands trous du toit pointu bâillaient noir, vus de loin. La jungle et les bois faisaient le fond. Il n'y avait pas de clôture ni de palissade d'aucune sorte, mais il y en avait une, apparemment, car près de la maison, une demi-douzaine de minces poteaux restaient en rang, à peine équarris, et ornés dans le haut de boules rondes sculptées. Le treillage, ou quoi qu'il ait pu y avoir entre eux, avait disparu. Naturellement, la forêt encerclait le tout. La rive était libre, et sur le bord, je vis un blanc sous un chapeau en roue de charrette, faisant avec persistance des appels du bras tout entier. Examinant la lisière de la forêt au-dessus et au-dessous, j'étais presque sûr que je voyais des mouvements, des formes humaines qui glissaient ça et là. Je bordai prudemment, puis j'arrêtai les machines et je laissai dériver. L'homme de la côte commença à crier, nous pressant de débarquer. « Nous avons été attaqués !» brailla le directeur. « je sais, tout va bien !» hurla l'autre, content comme tout. « Venez, tout va bien, je me réjouis !» Son air me rappelait quelque chose de déjà vu, quelque chose de drôle, vu quelque part. Comme je manœuvrais pour aborder, je me demandais de quoi ce type a-t-il l'air. Subitement, ça y était. Il avait l'air d'un arlequin. Ses vêtements avaient été faits d'une étoffe qui avait pu être une toile écrue, mais ils étaient partout couverts de pièces, de couleurs vives, bleues, rouges, jaunes, des pièces au dos, des pièces devant, des pièces au coude, aux genoux. Une ganse de couleur autour de la veste, une bordure rouge en bas de ses pantalons. Et le soleil lui donnait un air extrêmement gai et merveilleusement soigné, en plus, car on voyait comme tout ce rapiéçage avait été superbement fait. Une figure imberbe de garçon, très blond, pour ainsi dire pas de traits, le nez qui pelait, de petits yeux bleus, des sourires et des froncements se succédant sur ce visage ouvert, comme le soleil et l'ombre sur une plaine balayée des vents. « Attention, capitaine » cria-t-il. « Il y a un obstacle qui s'est coincé ici la nuit dernière. »« Quoi ? Encore un ?» J'avoue que je jurais comme un païen. J'avais failli crever mon éclopée pour couronner cette charmante balade. L'arlequin de la rive tourna vers moi son petit nez camu. « Anglais ?» me demanda-t-il tout sourire. « Et vous ? » criai-je de la barre. Les sourires disparurent et il secoua la tête comme s'il avait regret de ma déception. Puis son visage s'éclaircit. « Ça ne fait rien !» cria-t-il, encourageant. « Arrivons-nous à temps ? » demandai-je. « Il est là-haut » répliqua-t-il, désignant le haut de la colline de la tête et prenant soudain un air sombre. Son visage était comme un ciel d'automne, couvert un moment et lumineux au suivant. Quand le directeur, escorté des pèlerins, tous armés jusqu'aux dents, fut monté vers la maison, le garçon monta à bord. « Dites donc, je n'aime pas ça, ces indigènes sont dans la brousse, » dis-je. Il m'assura gravement que tout irait bien. « Ce sont des simples, » ajouta-t-il. « Bon, je suis content que vous soyez venus. Ça m'a pris tout mon temps de les retenir. »« Mais vous avez dit que tout allait bien, » m'écriai-je. « Ah, il ne pensait pas à mal, » dit-il, et comme je le fixais du regard, il se corrigea. « Pas précisément. » Puis, avec vivacité, « Ma foi, votre cabine de pilotage a besoin d'un nettoyage. » Enchaînant, il me conseilla de garder assez de vapeur dans la chaudière pour actionner le sifflet en cas de commotion. « Un bon hurlement fera plus pour vous que tous vos fusils. Ce sont des simples, » répéta-t-il. Son flot de paroles me submergeait complètement. Il semblait vouloir compenser des blocs de silence, et en fait il convint, en riant, que c'était bien le cas. « Ne causez-vous pas avec M. Kurtz, » dis-je. « On ne cause pas avec cet homme-là. On écoute, » s'exclama-t-il, d'un ton d'exaltation grave. « Mais maintenant, Il agita le bras et en un clin d'œil se retrouva au fin fond de l'abattement le plus extrême. Un moment après, il remonta d'un bond, me prit les deux mains, les secoua longuement tandis qu'il jacassait. « Ami marin, honneur, plaisir, bonheur, me présente, russe, fils d'un archiprêtre, gouvernement de Tambov. Quoi ? Du tabac anglais, l'excellent tabac anglais, ça c'est de la fraternité. Fumer ? Où est le marin qui ne fume pas ? » La pipe l'apaisa et par degrés je saisis qu'il s'était échappé de l'école, qu'il s'était embarqué sur un navire russe, qu'il s'était échappé de nouveau, qu'il avait servi quelque temps sur des navires anglais, qu'il était maintenant réconcilié avec l'archiprêtre. Il souligna ce point. Mais quand on est jeune, il faut foire des choses, amasser de l'expérience, des idées, s'ouvrir l'esprit. Ici, interrompis-je, on ne sait jamais, c'est ici que j'ai rencontré M. Kurtz, dit-il, d'un air de reproche juvénile et solennel. Après cela, je tins ma langue. Il ressort qu'il avait persuadé une maison de commerce hollandaise de la côte de le pourvoir de provisions et de marchandises, et il s'était dirigé d'un cœur léger vers l'intérieur, sans plus d'idée qu'un enfant de ce qui lui arriverait. Il avait erré autour de ce fleuve pendant près de 2 ans, seul, coupé de tous et de tout. « Je ne suis pas si jeune que j'en ai l'air. J'ai 25 ans, » dit-il. « Au début, le père Van Schuiten me disait d'aller au diable, » raconta-t-il tout content. « Mais je me suis cramponné à lui, et j'ai parlé tant qu'enfin il a eu peur qu'à force de boniment j'escamote son chien préféré, alors il m'a donné des trucs pas chers et quelques fusils, et il m'a dit qu'il espérait bien ne jamais revoir ma figure. » Brave vieux Hollandais, ce Van Schuiten. Je lui ai envoyé un petit stock d'ivoire il y a 1 an, de sorte qu'il ne puisse pas me traiter de petit voleur quand je reviendrai. J'espère qu'il l'a eu. Et pour le reste, peu m'importe. J'avais empilé du bois pour vous. C'était ma maison. Vous avez vu ? Je lui ai donné le livre de Towson. Il a fait mine de vouloir m'embrasser, mais il s'est retenu. Le seul livre qui me restait, et je croyais l'avoir perdu, dit-il, le regardant en extase. Tant d'accidents arrivent à un homme qui se déplace tout seul, vous savez. Les pirogues chavirent parfois, et parfois il faut s'éclipser si vite quand les gens se mettent en colère. Il feuilletait les pages. « Vous avez pris des notes en russe ? » demandai-je. Il fit oui de la tête. « Je croyais qu'elles étaient chiffrées, » dis-je. Il rit, puis se fit sérieux. « J'ai eu bien du mal à tenir ces gens, » dit-il. « Ils voulaient vous tuer ? » demandai-je. « Oh non !» cria-t-il, et se retint. « Pourquoi nous ont-ils attaqués ? » continuai-je. Il hésita, puis dit, l'air gêné, « Ils ne veulent pas le laisser partir. »« Ils ne veulent pas ? » dis-je curieux. Il fit un signe de tête plein de mystère et de sagesse. « Je vous dis, » s'écria-t-il, « cet homme m'a ouvert l'esprit. » Il écarta largement les bras, me regardant de ses petits yeux bleus, qui étaient parfaitement ronds.